Bonjour et bienvenue dans Le Bel Aujourd'hui, podcast du magazine en ligne Forum Opéra, consacré à la création lyrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver à l'Opéra Comique, en compagnie du compositeur Francesco Filidei, à l'occasion de la reprise de L'Inondation. Créé en 2019 sur un livret et une mise en scène de Joël Pommerat, l'opéra est repris du 27 février au 5 mars à la Salle Favart. Francesco Filidei, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, je voudrais peut-être souligner le contexte de cette production. Il s'agit d'une reprise. L'œuvre a déjà été jouée plusieurs fois en France. Est-ce que les enjeux pour vous, le compositeur qui assiste aux répétitions, est-ce qu'ils sont différents que lors d'une première en 2019?
Oui, complètement différente. Je dois dire que maintenant, c'est vraiment une opéra que je vois comme un spectateur. C'est une situation qui j'apprécie beaucoup parce que, bien sûr, finalement, on voit son bébé, on va dire, qui prend sa vie et qui a son indépendance. Et donc, ça fait beaucoup plus de plaisir, disons, à la création d'un côté. De l'autre, c'est vrai que la première fois qu'on voit naître quelque chose, bon, c'est magique.
Est-ce que ça change votre perception de votre propre musique, de l'écouter en tant que spectateur plutôt qu'en tant que compositeur qui doit vérifier que chaque chose est en place pour la création?
Oui, ça change beaucoup et je dois dire que ça m'aide beaucoup à cette distance, à réfléchir autour de ce que j'ai fait et peut-être pour apprendre aussi quelque chose. Genre, quand je l'écoute, notamment pendant la répétition des passages, seulement une section de l'orchestre, par exemple, je me dis, ah tiens, là, il y a quelque chose à développer pour une pièce dans l'avenir et qui j'avais pas amené jusqu'au bout, etc. Donc, c'est très intéressant.
Alors, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant un petit peu à l'histoire de cette inondation. Est-ce que pour quelqu'un qui n'aurait pas vu la production précédemment, vous pourriez résumer en quelques phrases simplement, hein, d'une part le récit, donc ce qui se passe dans cette nouvelle de Zamiatine et donc dans le livret, et d'autre part, quels sont un peu les grands enjeux dramatiques de la pièce selon vous?
Bon, ça serait mieux demander à Joël par rapport à ça. Moi, je ne suis pas très capable de faire une synthèse. Mais en fait, en plus, on m'a dit qu'il vaut mieux pas trop révéler par rapport à ça. Parce que pour Joël, même la trame, ce qu'on appelle en italien la trame, je ne sais pas en français maintenant, je n'ai pas les mots. Mais en tout cas, bon, la narrativité de la chose est quelque chose qu'il lui considère très important. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une histoire d'un couple qui a autour de 40 ans. Ça fait 13 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants et alors ils adoptent une gamine orpheline d'un voisin et à partir de là l'histoire se développe et avec une évidence de folie qui habite la femme en question.
On l'a déjà un petit peu évoqué, la particularité de cette production, c'est l'étroite collaboration avec Joël Pommerat, qui signe la mise en scène et le livret. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Il me semble que ça a été un procédé un petit peu inhabituel par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir pour l'écriture d'un opéra.
Ah oui, c'était génial. Et c'était un procédé que j'ai essayé plusieurs fois après de mettre en place, mais avec beaucoup de difficultés, mais qui, je trouve, on devrait vraiment poursuivre dans la création. Joël, c'est sans doute un grand artiste, comme on le reconnaît, mais en tant que metteur en scène aussi, il est capable de comprendre ce qu'il faut, où il faut, et les personnes qu'il a à ses côtés arrive à les utiliser, disons, si on veut, entre guillemets, au mieux. Donc, quand il m'a choisi, disons, parce que c'était à lui qui d'abord était confié, disons, l'idée de construire une opéra, il m'a choisi, probablement, on m'a dit, parce qu'il avait écouté ma première opéra, Giordano Bruno, et à l'époque lui il était sur Saïra et donc il trouvait qu'il y avait quelque chose à dire pour continuer disons cette espèce de réflexion autour de la révolution et tout et donc on s'est rencontrés et alors lui il m'a proposé des sujets et moi j'ai proposé d'autres sujets et il se trouve que lui il avait vraiment saisi l'inondation comme quelque chose de fort pour moi. Et c'est sans doute ce qui était. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé une force extraordinaire qui m'a provoqué aussi beaucoup de douleur parce que je suis entré carrément dans l'histoire. Alors, pour les procédés de travail, en fait, on s'est rencontrés, on a choisi le sujet. Lui, il m'a proposé un synopsis. Et après, pendant un an et demi, je ne sais pas, un an en tout cas, chaque mois, on s'est retrouvé, disons, une semaine ici à l'Opéra Comique avec des chanteurs assis autour d'une table. Et moi, je découvrais la scène avec les autres, c'est-à-dire lui me laissait libre de faire ce que je voulais. Tout était filmé. Donc on commençait, moi je faisais lire la scène au chanteur et après je commençais à entrer dans les sujets. Je disais par exemple cette phrase, on peut la répéter deux fois. Ici on va essayer de construire une architecture avec des répétitions. Ici tu mets des tons, ici après tu chuchotes, tu cries, etc. Et après j'avais Séverine Ballon, j'avais demandé à un violoncelliste qui nous aidait. Et je lui demandais de faire, par exemple, les bruits du vent ou, je sais pas, un pédale d'une note longue pour créer une atmosphère. Et on reprenait à lire sur ça. Quand j'avais bien assimilé les textes, j'allais au piano avec chacun des chanteurs et j'écrivais rapidement la mélodie et les rythmes étant donnés par des mots. Et disons, le deuxième jour, on tournait, on faisait la scène. Moi, j'improvisais au piano l'accompagnement et eux, ils chantaient les bouts de papier que j'avais écrits. Et Joël, il donnait les tempi de l'action. C'est-à-dire, par exemple, pour aller d'un côté à l'autre de la scène, il faut tot des pas. Et moi, j'attendais, j'improvisais autant qu'on arrive, lui, il donnait les gestes et là, les chanteurs attaquaient à chanter. Après, j'avais la maquette enregistrée et je la mettais sur un logiciel. Je la mettais. En tout cas, je l'utilisais sur un logiciel, l'ordinateur pour l'écriture musicale. Et j'ai transcrit exactement, plus ou moins, ce qu'on avait fait. Et à partir de là, après, j'ai orchestré. Et ça, c'était le procédé qu'on a employé.
Qu'est-ce que ça a changé pour votre musique par rapport à une pièce où vous écrivez, où vous avez d'abord le livret, puis la musique, puis la mise en scène, le fait d'avoir tout un petit peu d'un seul coup, est-ce que ça a eu des conséquences, je dirais, musicales sur votre langage?
Alors, moi, j'essaie quand je compose d'attraper la forme au début, donc d'essayer d'arriver d'un bout à l'autre. Après, je travaille sur les détails normalement. Là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis senti un peu comme un peintre qui a face à soi un modèle. Je veux dire, normalement, on reconnaît la différence dans une peinture, dans une fresque, entre un sujet qui a été peint de vrai ou pas. Et là, je crois qu'il s'est arrivé quelque chose de genre. C'est-à-dire que mes modèles, là, les chanteurs avec lesquels j'ai travaillé, ils avaient une attitude qui m'a inspiré. Bien sûr, la musique, c'est à moi. C'est moi qui ai écrit les mélodies et aussi, bon, j'ai employé cet rythme, mais il y avait une espèce de respiration qui donnait quelque chose de vrai, je crois, au sujet.
Si vous était donné d'écrire un troisième, un quatrième, un cinquième opéra, est-ce que vous renouvelleriez cette expérience?
En fait, j'en ai un troisième, un quatrième et cinquième à faire. Et j'essaie de monter les mêmes procédés, mais c'est très compliqué. En fait, j'arrive à faire quelque chose avec des chanteurs, mais la présence d'un metteur en scène, c'est vraiment pas envisageable parce qu'ils sont tellement pris normalement avec leur création. Et donc, disons, j'essaie de travailler comme ça, mais tout seul.
Continent par la fleuve. Et Si on passe de façon plus générale à l'opéra, est-ce que parfois vous vous heurtez à la fois au genre, mais aussi au bâtiment, à l'institution opéra? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas un peu difficile à appréhender quand on vient peut-être de la musique contemporaine où les choses sont parfois un peu plus souples, parfois seulement, bien sûr?
Au contraire, moi je trouve que les défis sont hyper intéressants. J'aime bien travailler avec un instrument qui a ses contraintes qui sont énormes, mais c'est grâce aux contraintes qu'on compose, c'est-à-dire qu'on a besoin des règles. Et là, les règles sont effectivement très strictes, et notamment les bagages culturels qui on s'amène. Il est tellement énorme que les défis sont très grands et les risques très forts. Mais c'est ce qui m'intéresse, disons, de faire.
Si on parle du bagage culturel, justement, alors vous avez une fréquentation que je sais assez assidue des auteurs italiens du passé, Puccini pour ne pas le nommer par exemple. Est-ce que ça vous a aidé dans votre approche du genre lyrique ou est-ce que ça vous a un petit peu inhibé ou gêné de passer après des gens comme ça?
Puccini, j'ai signé à 20 km, on a vécu ça depuis l'enfance. Ma première opéra, c'était Butterfly. Après, je me suis marié avec une japonaise, c'est pas par hasard, je pense. Non, je fais pas Pinkerton, mais bon. En tout cas, je dois dire que c'est grâce à l'opéra italienne, notamment, que je suis ce que je suis. Et je trouve que parfois, en Italie, parce que très souvent, pour la musique contemporaine, comme les autres musiques, il s'agit d'une question économique, de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et on a un peu mis à côté en Italie une sensibilité qui, je trouve, était propre au pays et qui, disons, a été reléguée seulement à la chanson. C'est-à-dire que d'un côté, maintenant, en Italie, il y a Sanremo qui bouffe tout. Et de l'autre, on a eu, bien sûr, des compositeurs de grand niveau comme par exemple Nono, qui, par contre, bon, ils avaient un chemin très, très difficile pour le grand public, on va dire. Et les tentatives, c'est de réussir à rapprocher le plus possible ces deux mondes, celui de la chanson et celui de la recherche, disons, au niveau de la forme.
Avec Giordano Bruno, donc vous avez deux opéras à votre actif, donc il y en a d'autres en préparation, on l'a entendu. Alors il y en a un qui est en italien, votre langue maternelle, et un autre qui est en français. Est-ce qu'il y a une différence dans la façon d'écrire pour vous? Est-ce que c'est plus facile d'écrire un opéra dans sa langue maternelle ou dans la langue par excellence de l'opéra ou dans une langue qu'on a apprise, mais même si on la parle très bien?
Absolument, les Français, c'est une catastrophe à mettre en musique. Et c'est une langue qui donne beaucoup, beaucoup de mal. Et franchement, oui, c'était hyper difficile pour moi de m'approcher à cette langue. Parce que, bien sûr, alors l'italien, c'est à ce niveau assez basique. En tout cas, pour moi, c'est naturel. Mais les accents toniques, ils sont là et on sait où il faut les mettre. Tandis que pour les Français, il y a des règles qu'on n'arrive vraiment pas à saisir. Parce qu'il y a plein de descriptions, il y a plein de couleurs différentes qu'on peut donner grâce à l'accent. Et tout ça, pour moi, ça reste un territoire assez étranger. Et donc, je dois vraiment remercier les chanteurs avec lesquels j'ai travaillé, avec l'Inondation, qui m'ont aidé à choisir, à comprendre.
Alors, si on veut dresser un portrait un petit peu plus complet de vous, Francesco Filidei, il faudrait qu'on mentionne aussi vos activités d'organiste, puisque vous avez étudié avec Jean Guillou, vous avez créé bon nombre de pièces pour cet instrument. Qu'est-ce que sa pratique vous a appris en tant que compositeur?
C'est-à-dire qu'on parle d'histoire, là, c'est clair que dans l'histoire de la musique, la plupart, je dirais, des compositeurs ont été organistes, même celles qui on ne dirait pas, hein, parce que, bon, si on parle, c'est clair que Bach était organiste, c'est clair que Frescobaldi était organiste, et c'est clair que César Franco, Messiaen, était organiste, mais Verdi aussi, à la base, était organiste, Puccini, à la base, était organiste. Et même Chopin a commencé avec l'orgue, on ne le sait pas, mais c'est vrai. Et il jouait à la chapelle, disons, il improvisait pendant les messes. Mais comme ça, beaucoup de monde. Berio aussi, il vient d'une famille d'organistes. C'est peut-être pour ça qu'il a décidé de ne pas faire construire l'orgue à l'Auditorium de Rome. Je ne sais pas, il y avait les projets. Et donc, ça, c'est quelque chose en Italie. C'est un pays qui n'a pas à ce moment un auditorium avec un instrument qui fonctionne. Ça, c'est quelque chose quand même. Et donc, oui, alors, la tête des organistes est là. Et pour tous ces compositeurs, et donc pour moi aussi, bien sûr à un autre niveau, mais par exemple, par rapport à l'orchestration, par terrasse, vous savez que l'orgue, il a plusieurs claviers, et donc on passe d'un clavier à l'autre, donc avec des couleurs différentes, mais on les fait vraiment par terrasse. Pour la forme, si on prend par exemple Yves Messiaen avec ses structures qui sont très très rituelles, quoi, avec des reprises du même objet sonore, on va dire. Là, moi, je suis un peu le même schéma. Et je dirais notamment pour le rapport avec la ritualité, justement, de la musique. Ça, pour moi, c'est tout. Et donc, une pièce de musique, c'est comme un rite.
J'ai l'impression en tant qu'auditeur que vos dernières pièces renouent avec une forme de consonance. Est-ce que c'est une simple impression ou est-ce qu'il y a quelque chose de voulu derrière tout ça?
Donc, alors, tout d'abord, quand j'ai commencé à composer d'une manière, disons, effective, j'ai passé une espèce de carême, on va dire, des sons. C'est-à-dire que je ne m'autorisais pas à utiliser, par exemple, ce que j'aurais voulu, parce que je suis puccinien dedans, on va le dire. Et alors, j'essayais vraiment de faire très attention à tout ce qui était au Puccini et même Charrino, parce que c'était mon prof, un compositeur qui travaille avec les silences. Et vraiment, je faisais très attention et je me suis construit comme une cage pour réussir. Mais c'était un système aussi pour avoir encore les désirs du son. C'est-à-dire que quand on n'a pas quelque chose qu'on le veut, on peut sentir plus fort. C'est comme la carême, en fait, non? La présence de ce désir. Et peut-être avec l'âge, on a moins d'énergie pour continuer à soutenir cette volonté de désidérer. Et donc, on se dit, bon, je jette la masque et finalement, je me donne ce que je veux. Mais je peux le faire, je l'ai dit, parce que j'ai fait sous ces périodes de contrôle. Et en fait, quand j'utilise des éléments comme des éléments consonants, comme on dit, j'ai fait très attention à la forme. Genre, il y a toujours un petit algorithme ou quelque chose qui règle la chose pour ne pas tomber dans une espèce de mélasse, je ne sais pas, qui n'a pas de structure d'un côté. Et de l'autre, je veux dire que parfois, moi aujourd'hui, je préfère des compositeurs qui sont capables de tricher, de te poser, disons, dans un état qui au début peut sembler, disons, un état confortable, banal, mais en fait, non. Et c'est une préparation pour te donner un coup encore plus fort. Et là, je pense à des compositeurs comme Benjamin Britten, par exemple, qui quand j'étais étudiant au conservatoire, j'aimais pas du tout. J'aimais des compositeurs qui étaient un peu des casseurs, des choses. Et avec l'âge, etc., j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus intéressant de faire semblant que les choses étaient normales quand dedans étaient complètement pourries, en fait.
Thank you. Si on regarde vos partitions, qu'elles soient instrumentales ou vocales, là on a celle de l'inondation juste sous les yeux, on constate que vos interprètes sont souvent sollicités au-delà de leur instrument. Vous leur demandez de prendre des accessoires, des appos, de la percussion légère, d'autres instruments. Est-ce que c'est une façon d'augmenter votre orchestre, votre ensemble d'objets sonores trouvés, ou est-ce qu'il y a une volonté aussi de composer le rapport de l'interprète à son instrument derrière tout ça?
Il y a un discours plus général à la base qui est s'interroger autour de la musique. Qu'est-ce que c'est pour nous? Et donc, en fait, la première chose qu'on va se poser en tant que compositeur, pour moi, c'est pourquoi on compose? Donc, pourquoi on compose, pourquoi on vit, etc. Donc, c'est tout est lié. Et je crois que, donc, à la base, moi je suis compositeur parce que quand j'écoutais la musique quand j'étais enfant, petit, j'ai pleuré parfois, je ne comprenais pas pourquoi. Je voulais comprendre avec quel mécanisme la musique était capable de me provoquer ça. Et il n'y a rien de mieux pour comprendre qu'il de faire. Donc j'ai commencé à faire. Et à partir de là, je crois, avec le temps, avoir compris que la musique, ce n'est pas comme Griset disait, du son. Pas du tout, non, non, c'est du temps. Donc, le compositeur, c'est quelqu'un qui organise le temps d'une manière perceptible pour voir, pour montrer que le temps ne revient pas en arrière pour nous. Pour notre perception, il y a cette inéluctabilité du temps qui passe et c'est pour ça que la musique a une force unique. C'est justement parce qu'elle te montre qu'on est là et qu'on est obligé à suivre cette directionnalité. Et donc, la musique, c'est comme. L'expérience, la musique écrite, la musique qui est préparée, comme l'expérience de l'autre. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui, pour toi, a préparé un repas, une mère, qui a organisé les temps pour t'accueillir, pour te faire suivre une histoire fermée. Et ça, c'est la base de tout, finalement. L'expérience de ne pas être seul. Grâce à la musique, on peut le faire d'une manière très évidente. Une musique écrite par quelqu'un d'autre qui est offerte à ton écoute. Mais pas seulement l'écoute, c'est-à-dire puisqu'il s'agit d'organiser les tons, on peut avoir des gestes, on peut avoir des odeurs, on peut avoir des expériences tactiles. Si ces genres d'expériences sont organisées dans les tons, avec une structure perceptible qui va avec notre respiration, parce que nous, on respire, c'est inutile, c'est-à-dire on ne peut pas percevoir autrement qu'avec une respiration, donc une forme qui entre et. Elle sort. Donc, ça, c'est notre perception et il faut faire avec. Donc, voilà. On peut utiliser peu importe. Donc, avant, j'ai utilisé par exemple seulement des bruits parce que c'était comme avoir mieux en évidence l'architecture du temps, les squelettes du temps. Parce que, il y avait beaucoup d'éléments à suivre. Il y avait un seul couleur, par exemple. Et donc, était plus facile de rattraper la forme du temps qui passe. Après, j'ai commencé à utiliser des couleurs, bien sûr. Et là, bon, quand il s'agit d'utiliser des appos d'oiseaux, par exemple, etc., bon, et moi, je suis organiste, on l'a dit avant, à la base. Et tous ces genres d'appos, etc., ne sont que des tuyaux d'orgue, en fait. Des petits tuyaux d'orgue pris et mis à côté, comme des anches, des petites flûtes très petites, etc. Donc, oui, ça fait partie de tout un parcours où on se demande aussi, bon, pourquoi je dois écrire pour des instruments? Alors, si j'écris des instruments pour des instruments, disons, classiques de notre tradition, il faut bien tenir en compte leur tradition, leur chose. Mais moi, je peux écrire aussi avec, par exemple, du café, quoi, et faire des choses. Là, on a face au très bon café de l'Opéra Comique. Et donc, on peut construire avec, peu importe. L'important, c'est de voir la construction du temps.
C'est amusant, cette définition que vous donnez de la musique, elle est à la fois extrêmement tragique et très réconfortante. C'est l'inéluctabilité du temps qui passe et le repas préparé par la mère. Disons, une confrontation qui est voulue et qui crée une tension dans l'écoute, selon vous?
Oui, absolument. C'est en fait, je crois qu'il y a aussi là-dedans une question, c'est-à-dire que la musique nous aide à percevoir ces tons-là, mais dans notre histoire, notamment quand on était petit, on n'arrivait pas à comprendre avec la rationalité ce qui s'est passé. Il y a des grooms, je ne sais pas si on dit ça en français, des grooms, des noyaux des tons qui ne se sont pas dissolus. qui sont restés enfermés, qui n'ont pas eu la manière de se dissoudre dans le temps. Et je crois que la musique aide à faire ça. Alors, si on pense par exemple à des symphonies de Mahler, ou même une attente après des explosions, c'est en fait une préparation à un geste tragique, un trauma du passé qui, avec la musique, on peut réussir à résoudre. En tout cas, pour la durée de la pièce. Après, ça va revenir probablement, mais bon.
Ce sera déjà ça de prix. Merci beaucoup, Francesco Filidei. Je rappelle que se joue à partir du 27 février et jusqu'au 5 mars votre opéra L'Inondation. C'est sur un livret et une mise en scène de Joël Pommerat, d'après une nouvelle d'Evgeny Zamiatine. On pourra y entendre Chloé Briot, Jean-Christophe Lagnès, Norman Aoun, Pauline Huriet, Enguerrand de His, Victoire Bunel, Guillaume Terrail et Tomislav Lavoie. Les enfants de la maîtrise populaire de l'Opéra-Comique et l'Orchestre de Chambre du Luxembourg sont dirigés par Leonard Garms. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Bel Aujourd'hui. À très vite!